Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après avoir contemplé la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il est temps que nous contemplions son ascension dans le ciel. À son habitude, saint Thomas pose la question: l'ascension était-elle nécessaire? Autrement dit, quelles sont les raisons pour lesquelles il fallait que notre Seigneur montât au ciel? Il en donne deux séries. Une première raison, dans la première série, le lieu de notre Seigneur avec son corps ressuscité, glorieux, immortel, ce n'est plus cette vallée de larmes. Et c'est évidemment le lieu de séjour de tous les élus de Dieu. Et il donne une deuxième série, et là il y a plusieurs raisons. Par rapport à nous, il reprend évidemment les paroles de notre Seigneur qui dit à ses apôtres: « Il est bon que je m'en aille, il est bon pour vous que je m'en aille. » Et notre Seigneur donne deux raisons. D'une part, il va, en allant près du Père, nous envoyer le Saint-Esprit. Et deuxièmement, il nous prépare une place. Saint Thomas se pose une objection. Et il dit: étant donné tout ce qui passe par l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour, justement, à travers son humanité, élever nos âmes. Il semblerait qu'il aurait mieux valu que le Christ ne quittât pas les hommes et qu'il ne remontât pas au ciel, au moins, jusqu'à la fin du monde, tant qu'il y avait des hommes sur la terre. Et saint Thomas, reprenant les paroles de notre Seigneur, donne quatre raisons. L'ascension développe et augmente notre foi, qui a pour objet ce qu'on ne voit pas. Et donc, en cachant ce qui se voit, notre Seigneur oblige à aller voir ce qui ne se voit pas. Et saint Augustin, à ce sujet, dit: bienheureux ceux qui ne voient pas et qui croient. Qui ne voient pas et qui croient. L'ascension relève notre espérance, c'est le deuxième motif. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Troisièmement, l'ascension dirige vers les réalités célestes l'affection de notre charité. Notre charité va goûter les choses d'en haut au lieu de goûter les choses d'en bas, même les choses d'en bas qui sont nobles, malgré tout, elles restent les choses d'en bas. De même que notre Seigneur a vécu une vie sainte ici-bas, dans cette vallée de larmes, et pourtant, sa place n'est pas ici-bas, de même, nous pouvons vivre saintement et aimer les choses d'en bas, à condition que ce soit pour les choses d'en haut, parce que les vraies choses que nous devons aimer, ce sont celles d'en haut. Alors, il y a évidemment une application à faire, et qui est très importante, d'une façon générale, parce que notre Seigneur dit d'une façon générale à ses apôtres: « Il est bon que je vous quitte ». Il ne dit pas à cause de telle ou telle raison, de telle ou telle circonstance. Il dit: il est bon que je vous quitte. Mais cela est particulièrement plus visible aujourd'hui, où non seulement nous sommes privés de la vue physique de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais où nous sommes privés du contact physique que nous donnaient les sacrements et que nous donnait notamment la Sainte Eucharistie. Que ce soit le coronavirus, que ce soit la crise de l'Église qui nous oblige à nous éloigner des modernistes et de leurs complices, nous sommes privés du contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes facilement désemparés, comme les apôtres étaient désemparés, à l'idée de ne plus voir notre Seigneur Jésus-Christ, de ne plus lui parler, de ne plus l'entendre, et le toucher même, parce qu'ils l'ont touché. Et ça, ça leur est resté dans la mémoire, le soir de Pâques, par exemple. Et beaucoup de chrétiens ont du mal. Ils acceptent que notre Seigneur soit monté. De toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais ils ont du mal à croire que notre Seigneur, dans sa providence, dans sa sagesse, puisse vouloir les priver de sacrements. Et à ce moment-là, évidemment, ils s'affolent et font tout pour avoir les sacrements à n'importe quel prix, alors que notre Seigneur ne demande pas à n'importe quel prix. Nous allons voir ce qu'il en est. Je vais diviser mon sermon en plusieurs points pour avancer très posément. Premier point, saint Thomas, pour tous les mystères, pose la question de la causalité du mystère. Cela paraît une question technique, théologique. En réalité, cela veut dire quels sont les effets du mystère et comment sont-ils produits. Et dès qu'on vous parle d'effets, on vous parle de fruits, alors tout de suite, évidemment, cela devient intéressant. Et il est normal que vous vous disiez, mais c'est vrai, pour la nativité, pour la vie de notre Seigneur, pour la passion de notre Seigneur, pour la mort de notre Seigneur, quels sont les fruits que cela m'apporte et comment j'en profite? Seulement pour en profiter, comme c'est Dieu qui donne, comment Dieu me les donne-t-il? Par quels moyens me les donne-t-il pour que je profite de ce moyen? C'est normal. Et à chaque fois, saint Thomas d'Aquin répond que l'humanité du Christ est l'instrument de la divinité. Cause instrumentale, dit-il, c'est-à-dire l'instrument de la divinité. Or, chaque mystère met en jeu l'humanité. Si c'était uniquement la divinité, on parlerait de Dieu au ciel, du Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité. On ne parlerait pas du Verbe présent sur terre, parce que dès qu'il est présent sur terre, cela met en cause son humanité. Eh bien, chaque mystère porte du fruit comme étant un instrument de la divinité. Qu'est-ce qu'un instrument ? Rappelez-vous, la femme malade d'un flux de sang, et qui se dit, si seulement je touche la frange de son manteau, je serai guéri. Et notre Seigneur, une fois que cette femme a touché la frange de son manteau, se retourne et dit, qui m'a touché ? Les apôtres lui disent, écoutez, vous êtes pressé par la foule de tous côtés, comment pouvez-vous dire que quelqu'un vous a touché ? Tout le monde vous touche. Non, j'ai senti une force qui sortait de moi. Eh bien, cette femme y a cru. Et la frange du manteau est l'instrument de l'humanité. L'humanité du Christ est l'instrument de la divinité. Et notre Seigneur, en faisant des miracles, amène à l'instrument, et de l'instrument, il amène plus loin. « Femme, ta foi est grande, dit-il. » Ta foi est grande. Va. Il ne lui dit pas, c'est bien, je t'ai guéri, veille désormais à ta santé. Pourquoi il dit la foi? Parce que la foi est ce par quoi la femme a vraiment touché la divinité à travers l'instrument de l'humanité. C'était le but. Les mystères opèrent donc toujours deux effets. L'un instrumental, comme un instrument par l'humanité, l'autre spirituel. Le premier n'est qu'un moyen, le second est le but. Lorsque la Samaritaine s'inquiète, les Juifs ont le culte à Jérusalem, les Samaritains n'ont pas à Jérusalem. Elle dit à notre Seigneur, nous n'en avons pas à Jérusalem. Nous avons un culte, mais sur le mont Samarie, et vous dites que ce culte n'est pas légitime. Alors, que ferons-nous? Elle s'inquiète. Et notre Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas. Bientôt vient le temps où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et cela veut dire que notre Seigneur va, justement, par son ascension, par sa prédication, nous faire aller plus loin que son humanité. Et Mgr Lefebvre nous disait, nous recommandait lorsque nous étions séminaristes, « Lorsque vous prêchez notre Seigneur, faites attention de ne pas trop prêcher l'humanité, c'est la divinité qu'il faut prêcher. » Deuxièmement, deuxième point de ce serment, on peut appliquer ce que nous venons de dire de l'humanité qui est une cause instrumentale de la divinité, on peut l'appliquer à tous les sacrements, puisque vous savez que le sacrement, sa définition est d'être un signe sensible, un signe, pas la réalité, un signe. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais la Sainte Eucharistie n'est pas vraiment un signe, puisqu'elle contient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement aux autres sacrements qui donnent la grâce, tandis que là, l'Eucharistie contient le corps et le sang, c'est-à-dire l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien justement, c'est cela qui est le signe, et l'instrument de la divinité. Quand on communie au corps et au sang de Jésus-Christ en vue d'être unis à la divinité. Et voilà pourquoi saint Thomas pose la question, celui qui communie sans la foi, obtient-il les fruits de la communion? Et il répond, non. Non. Parce que la communion sacramentelle de celui qui mange physiquement le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ, présent sous les apparences, bien sûr, mais qui est le vrai corps, et qui boit le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut en obtenir le fruit que si cet instrument le fait aller jusqu'au but, jusqu'au bout. Quand vous avez un artisan qui prend une scie pour scier une planche de bois, le but n'est pas de donner un coup de scie, le but est de donner une forme, et cette forme va être une table Louis XV, Louis XVI, que sais-je. Ça, évidemment, l'exemple est très limité, malgré tout. Par conséquent, parce que la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de notre Seigneur, enfin pas seulement, mais enfin principalement. La seule manière de communier, de participer physiquement à la messe, c'est de communier. Quand on ne communie pas, c'est une participation spirituelle. Je ne vous dis pas que la participation spirituelle est négligeable et que ce qu'il faut, c'est absolument la participation sacramentelle. Je vous dis exactement le contraire. La participation sacramentelle a été voulue par notre Seigneur Jésus-Christ comme son incarnation a été voulue. Incarnation, je vous rappelle, est chair, hein, c'est très concret, c'est la chair. Donc il a voulu être mangé, bien sûr, mais le but, c'est la participation spirituelle, une union, c'est pour ça qu'on parle de communion, une union dans le désir, c'est pour ça que saint Thomas nous a donné, là, comme troisième raison à l'ascension, diriger vers les réalités célestes l'affection de notre charité, c'est-à-dire nos désirs qui découlent de la charité. Et par conséquent, la seule manière de participer physiquement à la messe, c'est la communion sacramentelle. Toutes les autres manières sont des communions spirituelles, sont des participations spirituelles, et le but, d'ailleurs, est la participation spirituelle. C'est donc une erreur de croire qu'on participe pleinement à la messe en étant physiquement présent, en chantant avec la foule, la chorale, que sais-je, et que la communion sacramentelle est quelque chose de plus. Ce n'est pas quelque chose de plus. Celui qui chante, il ne fait que céder des rites pour se préparer à la communion sacramentelle et spirituelle. Le chant n'est pas une participation physique, c'est une participation spirituelle. Quand vous écoutez le chant, vous le méditez, le chant qui vous parle de la nativité, qui vous parle du carême, qui vous parle de Jésus-Christ souffrant, Jésus-Christ ressuscité, qu'est-ce que c'est ? C'est le début d'une méditation, c'est le début d'une contemplation, c'est le début d'une union dans la foi à notre Seigneur. C'est donc bien une participation spirituelle. La participation physique, c'est la communion. Et il faut dire alors, quel est le danger de l'abus quant à l'instrument ? Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Une femme, très bonne cuisinière, invite un de ses amis, très bon photographe. Celui-ci lui montre les photos et la femme lui dit « Oh, tu dois avoir un très bon appareil pour faire ces photos-là. » À la fin du repas, le photographe dit à la cuisinière « Oh, tu dois avoir de très bonnes casseroles pour nous avoir fait un si bon repas. » Bien, vous voyez, spontanément, parce que nous sommes faits de chair et d'os, parce que nous sommes blessés par le péché, péché originel, parce que le corps a un poids, parce que le corps très vite encombre l'esprit. Dans une photo, on imagine que tout est dans l'appareil mécanique qui fait clic-clac, là. Alors que tout est dans l'esprit de l'artiste, eux que l'appareil n'est qu'un pur moyen. On fait d'excellentes photos avec des appareils très très simples. Et voilà pourquoi notre Seigneur dit « Il est bon que je m'endaigne ». Saint Thomas nous en a donné quatre raisons, je vous l'ai dit. Pourquoi ? Parce que l'instrument est sensible et il y a un danger à ne pas s'élever suffisamment au-dessus du sensible. J'avais un jeune, j'ai connu un jeune au MJCF qui était très décevant. Il était dans les écoles, les bonnes écoles catholiques de la fraternité, et je suis allé le voir en disant écoutez, nous comptons sur vous, c'est pas normal que nous ne puissions pas compter sur vous. Vous, un bon élève des écoles qui avait eu tant de prêtres, tant de communions, tant de sacrements. Et il me répond justement, monsieur l'abbé, j'en ai eu trop. C'est grave. Mais si on ne fait pas attention, et c'est pourquoi Mgr Lefebvre nous avait interdit de rendre la messe quotidienne obligatoire. Au tertiaire et dans ses prédications, il recommandait l'assistance, mais volontaire. L'assistance quotidienne volontaire, parce que si elle est volontaire, on suppose que c'est une participation non seulement à la communion, mais aussi en esprit. Mais si on rend la messe obligatoire, on court le risque que les élèves aillent à la messe parce que c'est le règlement, qu'il n'y ait plus la participation en esprit, et alors, retenez bien cela, mes bien chers frères, c'est terrible, celui qui communie sans avoir l'esprit bien disposé, mange et boit sa propre condamnation. Et c'est pour éviter l'abus dans le sacrement, de s'en tenir qu'à l'instrument. Monseigneur nous disait, c'est bien joli, le sacrement agit ex opere operato, c'est-à-dire du simple fait qu'il est posé. Mais n'oubliez pas, dit-il, n'oubliez pas les bonnes dispositions. Parce que si les dispositions sont mauvaises, le sacrement ex opere operato, c'est-à-dire qui agit par lui-même, va porter des mauvais fruits et même des fruits de mort. Dans sa sagesse, Dieu, qui nous prive de la vue de l'humanité de Jésus-Christ, pour les mêmes raisons, quand il estime que c'est profitable pour nous, nous prive des sacrements. C'est pourquoi, par exemple, on a le droit de communier une seule fois par jour, alors qu'on doit toute la journée être en union avec Dieu. Parce que si on communiait 2, 3, 4, 5, 10 fois par jour, eh bien les choses perdraient leur sens, perdraient leur valeur, et puis finalement, à part quelques saints, ça ne développerait pas la vie intérieure, ça développerait la vie extérieure. On se précipiterait pour la communier, au lieu de se préoccuper de plaire à Dieu. Et c'est ce qui se passe Aujourd'hui, dans la situation actuelle, et c'est le quatrième point de mon sermon et le dernier point de mon sermon, le coronavirus vous oblige à vous priver de messe. Je ne parle pas du fait que les gouvernements soient légitimes ou pas légitimes en donnant de tels ordres. Le coronavirus vous oblige à vous priver de messe. C'est la sagesse de Dieu qui l'a voulu. Pourquoi cela? Si on oublie que le but est la participation spirituelle et que la participation physique n'est qu'un moyen, c'est-à-dire la communion n'est qu'un moyen, évidemment, on est désemparé. Et ça a été la même chose, et je pense que c'est une grâce du bon Dieu que le coronavirus, parce que déjà nous étions dans l'impossibilité, vous étiez dans l'impossibilité de participer aux messes des modernistes et aux messes des complices des modernistes, tous les types de complices des modernistes. On n'a pas le droit de participer à des messes pareilles. On n'a pas le droit de communier à des messes pareilles. Pourquoi? Parce que le signe est là, parce que la participation physique est là, la communion sacramentelle est là, mais l'esprit n'y est pas. L'esprit est mauvais. Alors on n'a pas le droit de recevoir un sacrement pour un mauvais esprit. Mais beaucoup de gens n'arrivaient pas à le voir. On leur a tellement dit la messe tous les dimanches, la messe tous les dimanches, la messe tous les dimanches, au lieu de leur dire l'union à Dieu, l'union à Dieu, l'union à Dieu. Alors du coup, évidemment, on était désemparés. Et il faut bien réfléchir. Il faut bien y réfléchir. Et hélas, la fraternité Saint-Pédis, comme beaucoup de bons prêtres zélés chez les modernes, voyant que les fidèles s'en privent de messe, ont tout fait pour courir à droite, à gauche, donner la messe, donner les sacrements, parce que évidemment, si il n'y a pas moyen de s'unir à Dieu sans participer physiquement à la messe, alors c'est évident que les fidèles sont dans un grand danger. Tandis que si on a compris qu'on peut s'unir à Dieu et qu'on doit s'unir à Dieu spirituellement, lorsque le bon Dieu, dans sa sagesse, pour notre avantage, nous prive de ce qui est visible et sensible, alors nous disons, eh bien, c'est l'occasion de monter plus haut. Et je termine par un petit mot à propos des jeunes, c'est la même chose. On nous a dit et redit que les jeunes ne peuvent pas se sauver s'ils n'ont pas les sacrements, qu'à eux, les jeunes, c'est plus rigoureusement nécessaire qu'aux autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr, étant donné leur faiblesse, il est possible que les sacrements leur soient plus utiles, quelquefois, pas toujours. Mais un jeune, enfin, quand on prépare un enfant à la communion privée, à la première communion, on le prépare à l'union à Jésus. Et donc un jeune est très bien, tout à fait capable de comprendre que dans certaines circonstances, il va être privé de l'aide sacramentelle, mais qu'il ne sera pas privé de la présence de Dieu, au contraire, et que Dieu sera d'autant plus présent qu'il y aura des difficultés. Parce que le bon Dieu est sage, le bon Dieu est bon. Jamais, quand on lui demande un œuf, il ne donne pas un scorpion. Quand on lui demande du pain, il ne donne pas une pierre. S'il ne donne pas le pain, s'il ne donne pas l'œuf, c'est qu'il donne beaucoup plus que ça. Il se donne lui-même, il donne son amitié, il donne sa divinité, il donne plus que la grâce, l'union à lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.